Et on parle laïcité aussi avec vous, Sigalit Lavonne, pour cette rubrique à la une d'Académ. Bonjour.
Bonjour Elsa. Oui, donc aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre 2025. Cette date marque les 120 ans d'une loi que nous évoquons souvent sans réellement la connaître, la loi de 1905, dite loi de séparation des églises et de l'État. Une loi essentielle, mais dont beaucoup ignorent le fonctionnement précis. C'est justement ce que rappelle l'historien Patrick Veil, que nous avons reçu dans un entretien assez récent sur Académ. Vous pourrez donc le retrouver intégralement sur Académ. Il explique que si la laïcité semble aujourd'hui source de tensions, ce n'est pas parce que la loi serait insuffisante, mais parce que nous avons tout simplement oublié de l'appliquer. Pour saisir son importance, il faut revenir au contexte. Comme il l'explique, en 1905, la France est très majoritairement catholique, 98% de catholiques en France. Le débat va être vif, parfois violent. Un député catholique s'exprime en disant « Voulez-vous détruire le catholicisme dans ce pays ?» Le pape va décider d'interdire aux catholiques français d'appliquer la future loi. C'est un pays qui est au bord d'une crise. Et c'est dans ce climat tendu qu'Aristide Briand et Georges Clemenceau, les rapporteurs, vont adopter une stratégie simple, c'est-à-dire ne jamais viser les croyants en tant que personne, mais intervenir lorsqu'un acteur religieux trouble l'ordre public ou cherche à faire primer la religion sur la loi. Et la loi de 1905 est précisément conçue pour cela. L'article 1 est sans ambiguïté, la République garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. Cela signifie que chacun peut croire, ne pas croire, pratiquer, porter un signe religieux, kippa, croix, voile, tant que l'ordre public est respecté. Rien dans la loi de 1905 n'interdit cette visibilité religieuse. La laïcité n'est donc pas une politique d'effacement, c'est une garantie de liberté. Mais cette liberté n'existe vraiment que parce qu'elle est protégée par un autre outil juridique concret, c'est l'article 31, explique Patrick Veil. Cet article punit les pressions religieuses. Concrètement, il est interdit d'obliger quelqu'un à accomplir un acte religieux, de même qu'il est interdit d'empêcher quelqu'un de pratiquer sa religion. C'est le premier volet de ce qu'on appelle la police des cultes, protéger les individus contre toute forme de pression. L'article 2, quant à lui, pose l'autre pilier, la neutralité de l'État, qu'on connaît mieux, l'État ne reconnaît ni ne finance aucun culte afin de garantir l'égalité de tous, croyants ou non. Mais là encore, la loi ne s'arrête pas à un principe général, elle prévoit des dispositions pénales pour éviter que l'autorité religieuse ne soit utilisée à des fins politiques ou pour troubler l'ordre public. Et c'est là qu'entre en jeu l'article 35, qui est un article important. C'est celui-ci qui va permettre de sanctionner un ministre des cultes qui appellerait ses fidèles à désobéir à la loi, à s'en prendre à d'autres citoyens ou qui utiliserait sa position religieuse pour troubler l'ordre public ou pour faire passer des messages politiques. Les sanctions prévues sont d'ailleurs plus sévères que celles du code pénal pour les mêmes actes commis dans un contexte non religieux. C'est une disposition qui vise les dérives, mais non les croyants. Ce qu'on sait moins, c'est que cet article 35 a été massivement appliqué. À partir du moment où la loi a été promulguée jusqu'à la Première Guerre mondiale, des centaines de prêtres, d'évêques, parfois même des cardinaux, ont été condamnés. Par exemple, lorsqu'ils refusaient la communion à des familles dont les enfants lisaient des nouveaux manuels d'histoire ou fréquentaient l'école publique. Cette application ferme et ciblée a permis d'éviter un affrontement durable et a permis d'apaiser la société. Cet outil existe bien dans la loi et pourtant il n'est aujourd'hui que très rarement utilisé. C'est là que Patrick Veil pointe un problème. Aujourd'hui, on discute sans cesse des nouveaux textes alors que la loi de 1905 prévoit déjà des mécanismes efficaces. Il donne un exemple récent. Après l'assassinat de Samuel Paty, l'imam de Pantin a relayé la fameuse vidéo qui a amené au meurtre. La mosquée a été fermée, ça a pénalisé l'ensemble des fidèles, mais l'imam, lui, n'a pas été au départ poursuivi, alors que l'article 35 le permettait parfaitement. Autrement dit, nous avons la loi, mais nous ne nous en servons pas. Certains responsables politiques avaient même proposé de supprimer cet article, et certains même ignoraient tout simplement que cet article existait. Ce rappel est essentiel, car la loi de 1905 n'est pas une loi contre les religions, c'est une loi anti-pression qui protège les libertés individuelles, les enfants, la République. Elle crée un cadre où chacun peut vivre sa croyance ou son absence de croyance en paix. Elle garantit la liberté religieuse, mais interdit surtout et avant tout toute forme de pression religieuse. C'est donc l'article 35 qui donne à l'État les moyens d'intervenir lorsque ce cadre est menacé. Alors que faire aujourd'hui? Selon l'historien Patrick Veil, il faut simplement réapprendre la loi et la remettre en pratique. Expliquer comment elle fonctionne dans les écoles, comprendre l'histoire de l'État civil, redécouvrir comment la République a garanti la liberté religieuse tout en préservant l'ordre public. Donc revenir à la loi 1905, ce n'est pas revenir en arrière, c'est retrouver un outil clair, équilibré, protecteur, un outil qui permet de cibler les dérives sans stigmatiser aucune communauté. Et dans le contexte actuel, c'est peut-être l'une des conditions pour mieux vivre ensemble. Je vous propose d'écouter un extrait de l'entretien de Patrick Veil.
Alors, elle dit que elle a d'abord deux articles de principe. D'où découle tout le reste. Premièrement, la liberté de conscience assurée par la République sans aucune restriction. Alors, elle est absolue.
Qu'est-ce que c'est que la liberté de conscience?
C'est le fort intérieur, c'est ce que vous pouvez penser. C'est votre liberté de penser, de croire, de ne pas croire en vous-même. Ensuite, vous avez le libre exercice des cultes, qui est garanti sous réserve des dispositions de l'ordre public. Ça veut dire quoi, le libre exercice des cultes? Jusqu'à présent, on pensait que ça voulait dire le droit d'aller à l'église, au temple, à la mosquée. Non. Ça veut dire le droit de manifester sa foi. Si vous sortez dans la rue avec une kippa ou avec une croix sur vous, et que ça se voit, vous exprimez votre culte, c'est ça que ça veut dire en droit. Et donc c'est libre. Et alors, je fais tout de suite là quelque chose d'important, c'est que cette liberté, toutes les libertés de la loi 1905, n'existent, ne sont garanties effectivement, ne sont effectives que parce qu'il y a des dispositions pénales qui punissent leur violation. Et donc, l'article 31, qui est associé à l'article 1, dit que si on exerce une pression sur quelqu'un pour le contraindre à exercer son culte, par exemple, pour le forcer à mettre une kippa ou l'en empêcher ou l'enlever, cette personne est passible d'amende ou de prison.
Vous dites qu'on a oublié cette loi de 1905.
On a oublié.
Il faut y revenir.
Oui.
Vous dites même que revenir d'une certaine manière à ce texte de 1905, ça permettrait d'apaiser le climat actuel en France. En quoi, selon vous?
Parce qu'aujourd'hui, vous avez, je dirais, là encore, il y a plus que deux camps, hein, mais il y en a sur la laïcité, sur des gens qui aiment la laïcité, qui disent qu'ils veulent lui être fidèles. C'est important. Bon. Certains disent qu'il faut éviter toute discrimination, des statuts spéciaux pour certains compatriotes, de culture musulmane par exemple, et donc il faut appliquer la loi des 1905. Et les autres disent on ne peut pas ne rien faire, il y a l'islamisme radical, les attentats, etc. Il faut faire quelque chose, il faut d'autres dispositions, ça ne suffit pas. Sauf que ni les uns ni les autres ne
connaissent vraiment cette loi.
Cette police des cultes. Or, c'est toute la loi de 1905, donc ça satisfait les premiers, et c'est des instruments qu'ils ne connaissaient pas, donc ça satisfait les seconds. Et c'est des instruments qui visent particulièrement les chefs religieux, radicalisés, politisés, qui violent, je dirais, l'espace, les limites de l'espace de la religion, qui est de prier Dieu. Le reste, on n'a pas à le faire, se mettre à appeler à des obéissances aux lois, etc. C'est punissable par la loi de 1905, et ce sont des instruments qu'on a oubliés et qu'on n'a pas utilisés.
Donc vous appelez à un retour à cette loi de 1905.
J'appelle à retour à la connaissance, au savoir, à l'étude de la loi, de sa jurisprudence, qu'on la partage, qu'on l'explique aux enfants, c'est ce que je dis aux enfants quand je vais dans les écoles. Qu'est-ce que c'est que la laïcité? C'est le droit de croire, de ne pas croire, sans pression. Si quelqu'un fait pression sur vous, cette personne peut aller en prison. Et si vous faites pression sur quelqu'un, vous pouvez aller en prison. Vos parents vous ont transmis leur idée sur Dieu, sur l'existence de Dieu, sa non-existence. Vous avez le droit de faire votre chemin sans pression. Et si votre professeur n'a pas de signe religieux visible, même si cette professeure est croyante ou croyant, c'est pour ne pas faire pression sur vous, et c'est le cas de tous les fonctionnaires. Quand vous expliquez la laïcité comme ça, il y a très peu d'élèves qui sont contre.
Patrick Veil, un entretien à retrouver en intégralité sur le site d'Académ, www.académ.org.